Que nous mourions, la trace de nos vies n'est hélas pas seule à devoir affronter l'oubli. Outre le tas d'insignifiances, d'attentes, d'espérances et d'événements saillants qui constituèrent bon an mal an une existence, ce que notre anéantissement s'apprête à éclipser n'est rien moins que l'aura de celles et ceux qui, nous ayant précédés, fussent depuis très longtemps, au sein de l'arène terre, puis dans la mort, s'offrirent à nous comme autant de mentors, dont l'œuvre ou l'attitude nous engagèrent à bousculer une vision du monde par trop commune, désenchantée ou fatiguée. Gilles Silberstein est ce soir notre invité à l'occasion de son livre magnifique intitulé « Voyage au pluriel en Russie absolutiste », sous-titre « Vie et mort de quatre opposants ». Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique et ce sera avec Lhasa. Silberstein, que votre enfance a été un grand malheur.
Oh là là, on commence avec des questions essentielles.
Ben oui, ça détermine l'avenir.
Absolument, et ça la détermine d'autant plus que l'enfance est porteuse de, me semble-t-il, d'une vision de plénitude très grande, qu'on mettra très longtemps à retrouver, à partir du moment où les parents vous apprendront à faire le deuil de cette plénitude, de cette vision où tout fait sens. À commencer par les querelles entre les parents, les divorces, et puis le terrible, tu verras quand tu auras mon âge, cette chose haïssable, eh bien non, ils n'ont rien vu.
Parce que vous êtes parti.
Parce que je suis parti, parce que...
Très jeune, sur les routes.
Voilà. Parce que...
Comme beatnik.
Un peu. Beatnik, oui, on pourrait dire ça, beatnik avec des livres français, ou français, ou beatnik avec Assès de Kazantzaki, donc qui n'était pas si français que ça, beatnik avec Fin de partie de Samuel Beckett, voilà, c'était en tout cas les deux livres essentiels sur lesquels je ne partais pas, qui me semblaient recueillir la vision la plus exigeante et la vision la plus désespérée, parfait.
Dès la fin de l'adolescence, les livres c'était votre pays.
Les morts étaient mon pays. Les livres étaient mon pays, les livres, mais à travers les livres, les morts, puisque dans la mesure où les parents sont les ambassadeurs des vivants, il n'y avait rien à faire de ce côté-là, c'était chez les morts qu'il fallait creuser. Et j'ai creusé, et je me suis nourri, et je me suis même, je l'avoue, je le confesse, je me suis même goinfré de ces voix mortes, qu'elles soient Sophocle, qu'elles soient Pascal, qu'elles soient Shakespeare. Et ce sont des oncles. Il y a des tantes aussi, il y a des cousines aussi, qui vous remettent en selle. Et on galope longtemps, jusqu'à un moment où, via l'heure où on veut leur rendre hommage.
Il y a les vivants aussi. Ceux qui travaillent dans la rue, votre premier ouvrage avait trait au métier de la rue, et vous-même avez fait de nombreux petits boulots. Vous avez travaillé de vos mains.
Oui, mais bien vu pour les métiers de la rue, c'est vraiment un moment qui n'est pas prémédité, de même que le livre dont nous allons parler n'est pas vraiment prémédité. J'étais bétonné dans mon cher moi à travers mes lectures. Et puis, de voir ces personnes qui travaillaient dans la rue par tous les temps, de voir parfois simplement des dos sur un marteau-piqueur, de voir une prostituée qui fait le tapin, de voir un bonimenteur, de voir un marchand de fromage, un balayeur, je me suis pas dit c'est une fameuse idée, je me suis dit je pouvais pas faire autrement. Ça c'était la première sortie bénie du mois.
La seconde sortie bénie du mois, ça a été la découverte des Indiens.
Absolument.
Je crois que vous êtes parti essayer d'habiter avec eux, vous avez réussi à comprendre leur manière de vivre, vous avez réussi à vous intégrer à l'intérieur de cette culture. Je vous propose d'écouter un reportage qui va parler d'un de ces Indiens, une de ces Indiennes. Elle s'appelle Éléonore Sioui. Elle est indienne du Québec, parce que je crois savoir, Gilles, que vous avez commencé par les Indiens du Québec. Et elle va parler de sa famille. C'est une archivina du 26 décembre 1995.
On nous a tout enlevé, même notre droit d'être amérindienne, même notre... nourriture, c'est défendu de chasser, c'est défendu de pêcher, tout est défendu. C'est défendu de parler notre langue, c'est pas valorisé beaucoup lorsque tu vas à Vancouver et puis que le japonais va être une langue officielle. Et puis à Hawaï, on se bat pour que le japonais... Mais les langues amérindiennes qui sont là, elles ont même rien pour essayer de les protéger. Il n'y a pas de subvention. C'est des peuples qui tiennent à la terre. Et la terre, c'est l'économique. Et la terre, c'est là où est l'argent, où est la puissance.
Comment s'est opéré ce décentrement de vous-même, Gilles Silberstein ?
Eh bien, vous l'avez déjà débusqué. Ce sont ces personnes qui travaillaient dans la rue et qui m'ont fasciné. Et puis, quelques mois plus tard, mon épouse était nommée à la radio Suisse romande à Washington pour 4 ans. C'était l'année où on proclamait le sixième centenaire ou le cinquième, excusez-moi pour de la découverte de l'Amérique. Et il fallait, mon épouse était très curieuse de voir ce que les autochtones pouvaient penser de cette découverte, de cette terre inconnue. Et donc, pour les raisons de la radio, elle s'est plutôt orientée vers le Québec. Je l'ai suivi. Nous sommes allés chez les Mohawks, chez les Atikameks. Et puis, à un moment donné, nous nous sommes retrouvés en forêt avec un petit groupe d'Inuits, ce qu'on appelait autrefois les montagniers. Nous avons passé peut-être une heure et cette heure m'a bouleversé. Là, j'ai trouvé dans la modestie, vous voyez, vous avez entendu cette voix, elle est à la fois très modeste, elle est vibrante et elle est pleine d'énergie aussi, elle est pleine d'indignation, mais pas d'une récrimination. Et j'étais si bouleversé que je me souviens bien, j'étais vraiment remué. Et le soir, j'ai dit à Monique, faut que je fasse quelque chose. Et puis je lui ai dit, je devrais faire une série d'articles. Et puis mon épouse m'a dit, mais non, fais un livre. Alors, naturellement, il ne s'agissait pas d'arriver en disant, voilà, je suis le sauveur, mais j'ai proposé au conseil de bande le fait que je pourrais peut-être venir habiter dans les réserves et puis dans le territoire de chasse. Là, d'abord, je me suis fait dire que 3 mois et dans un même endroit, c'était exclu. Il fallait une année. Alors, j'ai dit, oui, il faut aller une année, mais simplement, à chaque fois, dans les différentes bandes où je suis allé, dans les différents lieux, au Labrador, à chaque fois, j'ai présenté mon projet aux représentants politiques, et il faut croire que j'ai inspiré confiance, ce qui n'allait pas de soi, à des moments où pas mal le souvenir d'anthropologues ou d'ethnologues qui venaient, qui disaient c'est formidable ce que vous faites, etc. Et qui venaient, qui prenaient du matériel, qui comme ça pouvaient passer un diplôme, avoir un, et puis ne donnaient jamais suite. Ces gens qui s'étaient fait, ils avaient l'impression de s'être fait piller une deuxième fois. Vous voyez, on les sédentarise. Et puis ensuite, on a quelqu'un qui vient, qui dit, quand même, c'est formidable comment vivaient vos ancêtres. Vous voulez pas me raconter un petit peu? Et puis, vous voyez, c'est un deuxième pillage. Donc, moi, j'ai connu une personne et elle est décédée. Je la remercie encore d'avoir manifesté à mon égard une sorte de colère de me dire ça. Mais il fallait qu'il le dise. Je pouvais l'entendre et nous sommes devenus très amis par la suite.
Et vous revenez dans ces réserves d'Indiens aujourd'hui?
Il m'est arrivé de revenir. Il m'est arrivé plusieurs fois d'y revenir. Il m'est arrivé d'y revenir il y a à peu près une dizaine d'années. J'ai toujours de temps en temps des mails, un téléphone, des choses comme ça, oui, ou SMS, petit. Vous voyez, oui, il y a toujours un contact. Et même très récemment des contacts encore.
Et vous avez écrit des livres remarquables sur ces civilisations qui aujourd'hui sont en train de disparaître. Ça continue tous les jours à bas bruit, personne n'en parle. Suppression des langues, suppression des cultures, suppression des civilisations.
Si vous me permettez, j'aimerais apporter une nuance, c'est-à-dire que ce soit ces Inuits du Québec-Labrador, que ce soit les Kalinias de...
Au Québec, il y a eu des avancées gouvernementales.
Oui.
Avec des représentants dans le gouvernement.
Oui, oui. Mais par exemple, j'ai passé aussi 6-7 mois chez les Kalinias, donc de Guyane française, un territoire qui a tellement plu à la France qu'ils en ont fait un département, merci. Et donc ça veut dire destruction du droit coutumier. Mais ce que je veux dire, c'est que nous ne sommes pas des pleureurs. Ces peuples ont très souvent touché le fond de la cuvette, comme ça a été le cas. J'ai vu ça en 1992 avec des suicides vraiment. Et ces gens ont commencé à se dire, ne comptons pas sur les services sociaux québécois, même s'ils veulent bien faire, comptons sur nous, comme on faisait avant, etc. Et je trouve qu'il y a une reprise très lente, parce qu'il y a encore des épiphénomènes de jalousie, mais ces sociétés, me semble-t-il, renaissent et je ne suis pas sûr qu'elles seront beaucoup moins durables que la nôtre.
Êtes-vous un coyote ou un ours, Gilles Silberstein?
Mais là, vous m'embarrassez bien. Vous m'embarrassez bien. J'étais un coyote pour feu Monique et je suis un ours maintenant pour Eva, ma compagne. Donc je suis vraiment entre les deux. Mais je sais pas.
Donc quand vous avez la personnalité ours, quand vous mettez l'oreille sur la terre, vous entendez quoi?
Ah, quand l'oreille, quand l'ours met la terre sur non pas la terre sur l'oreille, quand l'ours met l'oreille sur la terre, il veut écouter qui vient. Qu'est-ce qui se passe? Si le bruit de la rivière est normal, s'il est altéré, tout ça?
Et quand le coyote dresse les oreilles à la tombée de la nuit.
Je devrais pas le dire, mais ce qui avait inspiré ce surnom à Monique, on avait trouvé un livre qui s'appelait où le coyote et veut les villes, et ça l'avait ravi. Et j'ai tout à fait volontiers accepté ce qualificatif.
Avez-vous des ancêtres russes, Gilles Silberstein?
Je n'ai aucun ancêtre russe, mais j'ai des ancêtres roumains, juifs, il faut bien le dire, qui venaient certainement de Galicie, peut-être d'ailleurs. J'ai fait des recherches, en Roumanie pendant beaucoup de temps et j'ai trouvé un acte de mariage de 1835. Mais au-delà, je ne trouvais rien aux archives d'État, parce que avant une certaine date, non, je crois que c'était même plus tard, 1865, avant cela, c'était les consulats. Vous étiez juif de ressortissant de austro-hongrois, c'était votre consulat donc qui tenait vos archives. Donc il faudrait aller avant. Et puis les noms ont changé dans cet acte de mariage dont je vous parle. Voilà, il y a des Silberstein. Et puis un petit peu avant, il y a des Ben, je sais pas quoi. Et puis là, pour retrouver dans les archives, je crois que ce serait impossible. Et puis c'est plus ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'était l'histoire de cette communauté juive de Iași, de Roumanie, comment elle était venue dans cet endroit, comment elle s'est développée, comment elle avait été prospère, comment elle avait été tellement bien accueillie, parce que elle créait un tiers état, elle créait quelque chose qui n'existait pas entre les boyards et les serfs. Et puis à un moment donné, dans les années 1870, comment elle a commencé à devenir indésirable, parce que les Roumains se sont dit que finalement ils pouvaient aussi ouvrir des commerces, etc. Et donc comment le fiel de l'antisémitisme s'est immiscé en politique et comment il a grossi jusqu'à 1941 avec le pogrom de Iași qui a fait 13 000 morts juste en 2-3 jours, auxquels ont participé la population.
Vous êtes écrivain, vous êtes poète, vous êtes traducteur, vous êtes essayiste. Vous avez notamment traduit l'œuvre de Miloš. Je vous propose de l'écouter. Il a eu le prix Nobel de littérature en 1981. Il va parler de l'importance de sa poésie. C'était au micro d'Antoine de Gaudemart et c'était le 27 février 1982.
C'était la voix libre de la nation qui parlait par la poésie. La poésie était le parlement, les journaux, l'action politique, tout ce que vous voulez. Alors le rôle de la poésie en Pologne était toujours exceptionnel.
Et vous pensez que aujourd'hui cela continue?
Oui, je crois que la situation maintenant ressemble les périodes les plus sombres de l'histoire de la Pologne. Et alors, dans ces moments-là, la poésie toujours portait le fardeau de devoir civique, si vous voulez.
Le prix Nobel donne à ses lauréats une conscience morale et une voix, disons, universelle. Si vous aviez un message aujourd'hui à envoyer, qu'est-ce que vous diriez?
Le message, qu'est-ce qu'on peut dire?
Je pensais par rapport à votre pays.
À mon pays. Je crois qu'il y avait dans l'histoire de la Pologne des moments tragiques et sombres dans le passé, mais l'idée même gouverner un pays contre la volonté de ses habitants ne peut pas être valable pour longtemps. Ça peut durer, mais toujours le sentiment populaire de 36 millions de Polonais emportera la victoire à la fin.
Nous venons d'entendre la voix de Miloš, que vous avez traduit, Gilles Silberstein. Il parle de la poésie comme acte de résistance. Et je pense que c'est ce que vous faites aussi, non seulement à l'intérieur de vos traductions, mais aussi à l'intérieur de vos poèmes. Et on a l'impression que de plus en plus, vous concevez l'écriture comme un acte de résistance, soit contre l'oubli et la mémoire commune, soit contre la situation politique contemporaine, et là je veux parler de la Russie.
Oui, alors là c'est bien évidemment, Czesław Miłosz la parle il y a quelques années, mais on peut tout à fait appliquer ce qu'il dit il y a quelques décennies à la situation aujourd'hui, à travers par exemple la détermination, l'immense talent de d'Olga Tokarczuk, par exemple, qui a eu le prix Nobel et qui par ailleurs est vraiment aussi détestée par une frange nationaliste de son pays. Là, c'est tout à fait net. La poésie au sens large, pas nécessairement des vers, mais puisqu'on parle un peu du voyage, des voyages en Russie absolutiste, il est certain qu'à travers ces quatre personnages qu'on évoquera peut-être, se glisse tout un faisceau de poètes qui vont rebondir de partie en partie, parce que c'est effectivement le ferment d'une forme de résistance, à commencer justement par Lermontov et finissant par les poèmes assez rugueux des damnés du goulag qui composent une poésie aussi qui est complètement remarquable et qui est effectivement une forme de protestation très 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 directe.
Alors ce livre qui vient de paraître, qui est un énorme livre, qui est un livre univers où on s'engloutit avec des listes tellement les informations sont importantes, le voyage poétique est aussi important que le voyage politique, vous nous faites découvrir quatre opposants à la Russie absolutiste, vous nous faites parcourir à la fois le 19e siècle mais aussi le 20e siècle et aussi notre 21e siècle. Et ce faisant, vous avez inventé un style de littérature qui est peut-être le fruit, Gilles Silberstein, de ce que vous avez vécu auparavant et de vos livres précédents, qui étaient plus des voyages, des éloges de la nature, de la sauvagerie du monde, de la recherche de la pureté poétique, etc. Et là, on a l'impression que c'est un voyage mémoriel, mais c'est aussi un voyage au pays de vous-même. Que s'est-il passé dans votre existence pour que vous passiez une partie de votre vie, notamment les dernières années, à essayer de découvrir ce qu'on nommait autrefois les dissidents dans la Russie absolutiste ?
On pourrait citer certaines étapes, mais j'aimerais m'en tenir d'une part au fait que depuis 1974, j'ai travaillé à l'Âge d'Homme, aux éditions L'Âge d'Homme, dont la mission était d'exhumer des auteurs soit classiques, soit contemporains, comme Zinoviev ou Grossman, qui n'avaient pas droit de citer encore, et qui ne l'avaient encore bien moins chez eux. Il y a eu la découverte ensuite d'un jeune poète qui s'appelle Yuri Galanskov, qui est décédé à 27 ans dans un camp de Mordovie, qu'on a laissé simplement crever, qui avait un ulcère qui aurait pu parfaitement être soigné. Mais c'était un de ces jeunes gens de ces années, justement, fin 60, 70, qui parlait à visage découvert, vraiment d'une façon très, très, très ouverte. Et ces gens ont vraiment gêné. Au début, on a vu que M. Khrouchtchev pensait que c'était très bien de s'allier ces jeunes protestataire pour mener à bien son ambition, qui était une ambition assez un culte de la personnalité aussi. Puis au bout d'un moment, il s'est rendu compte que ça allait loin. Les gens autour de lui, parce que toujours des gens autour de lui, lui ont dit maintenant ça commence à suffire. Cet homme est mort à 27 ans et j'ai voulu rendre hommage à cette personne, cette très belle personne. Et pour cela, je me suis adressé en premier lieu à la pensée russe, ce journal qui était russe qui est à Paris. J'ai rencontré, fait la connaissance de Natacha Diujeva, qui m'a orienté vers des personnes dont je connaissais d'ailleurs les livres, qui sont comme des gens comme Natalia Gorbanevskaya, Vladimir Bukovski, que j'ai rencontré, que j'ai fait écrire sur ce personnage puisqu'il l'avait connu. Et puis voilà.
Et puis vous y êtes allé.
Oui.
Alors, il faut connaître les lieux, il faut regarder le ciel, il faut comprendre dans quelle situation économique vivent les gens pour savoir ce qu'ils ont enduré.
Alors, ensuite est venue effectivement la découverte de cet Anatoli Marchenko dans un magazine littéraire consacré au goulag. Et cet homme m'a... Pourquoi son visage et très peu de choses, ouvrier, détonnait tellement avec le milieu intellectuel de dissidents que je connaissais que ça m'a intrigué et j'ai décidé, j'ai alerté quelques amis et nous avons fondé le Comité international Marchenko. Nous avons beaucoup travaillé pendant 3 ans pour essayer de sortir cet homme. Je citerai comme personne, quand même pour le sérieux, il y avait Samuel Beckett et Simone de Beauvoir, d'autres personnes ont appuyé ce comité, donc c'était vraiment un gros travail. Et puis, il est quand même décédé dans la prison de Tchestopol en décembre 86. Ça a été affreux.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Gilles Silberstein, Tom Waits.
The bats are in the belfry.
Nous avons retrouvé une archive de l'INA du 11 décembre 1986, un reportage où on va nous expliquer comment et pourquoi le dissident Anatoli Marchenko vient de mourir la veille de la journée des droits de l'homme en Union soviétique, le 11 décembre 1986. Et dans votre ouvrage, Gilles Silberstein, vous mélangez les dates, c'est-à-dire vous ne prenez pas un parti chronologique pour nous raconter l'histoire de ces 4 résistants à la terreur russe. Vous commencez par Marchenko. Je vous propose d'écouter ce reportage daté donc du 11 décembre 1986. À l'époque, le correspondant était Ulysse Gosset.
Curieuse journée des droits de l'homme en Union soviétique, au lendemain de la mort en camp d'internement du dissident Anatoli Marchenko. Chaque 10 décembre, place Pouchkine à Moscou, Une poignée de dissidents se rassemblent en faveur des droits de l'homme avant d'être immanquablement embarqués par la police politique. Or, cette année, les manifestants se sont vus ravir la vedette par un orchestre et des officiels venus célébrer la paix dans le monde. Bien entendu, ce n'était pas par hasard, Ulysse Gosset.
Hier soir, place Pouchkine, en plein centre de Moscou, et par un froid à ne pas mettre un dissident dehors, les autorités soviétiques ont voulu en effet présenter un remake de L'arroseur arrosé. Mais ce fut un spectacle trop réel pour prêter à sourire, d'autant moins que le KGB tenait les premiers rôles. Alors que chaque année, une poignée de dissidents se rassemblent autour de la statue de Pouchkine, enlevant leur chapka pour manifester leur soutien aux droits de l'homme, ce simple geste entraînant une arrestation immédiate, eh bien hier le Kremlin a tout simplement détourné la manifestation à son profit. À notre grande surprise, avec les correspondants étrangers venus au rendez-vous ce 10 décembre, nous avons découvert une tribune avec micro, haut-parleur et quart de télévision officielle. Slogan pour la paix et, je cite, « pour la libération des prisonniers de l'impérialisme et de la réaction ». Fin de citation. La milice bloquait toutes les issues et de jeunes communistes aidés par les inspecteurs du KGB en civil empêchaient physiquement tout journaliste d'approcher un éventuel contestataire. Mais un réfusnik d'Arménie et un chrétien dissident ont toutefois eu le courage de braver les élateurs du parti. À 19h, quelques insensés, entre guillemets, ont retiré leur chapka avant d'être interpellés. À Moscou, la journée des droits de l'homme relevait d'un rare cynisme au lendemain de la mort du dissident Marchenko. Un décès qui n'empêche pas le Kremlin de proposer la tenue à Moscou d'une conférence officielle sur les droits de l'homme.
C'est une archive assez extraordinaire à réécouter aujourd'hui. L'action se passe en 1986, Marchenko vient de mourir, vous restituez son itinéraire à l'intérieur de votre ouvrage, Gilles Silberstein. Vous racontez comment ce fils d'ouvrier a été arrêté à la suite d'une rixe à la sortie de son usine quand il était un jeune homme, mis dans un camp de redressement, puis ayant essayé de sortir hors des frontières de la Russie, il a été repris, de nouveau des camps de redressement, de nouveau une révolte à l'intérieur du camp, à la fois pour témoigner du sort de ses camarades et à la fois pour essayer de continuer à avoir cette dignité d'homme. Et toute sa vie s'est passée à résister. Mais le régime soviétique à l'époque a eu raison de lui. C'est un héros du quotidien. Je crois que aujourd'hui sa mémoire est célébrée dans certains cercles entre guillemets dissidents de Russie, même si c'est très difficile de pouvoir être dissident en Russie. Mais son nom, s'il a été connu quelque temps en Europe, a disparu de notre mémoire commune. Votre but est aussi de réhabiliter la mémoire de ces hommes qui ont résisté au nom des droits de l'homme.
Absolument.
Rimo. Mémoire individuelle.
Oui, oui. Mémoire individuelle et cercle. Mémoire individuelle, cercle de personnes. Marchenko était, comme vous l'avez dit, un ouvrier foreur, mais il a été accueilli dans les milieux intellectuels dissidents avec la plus grande des attentions. Et puis ce passage qu'on vient d'entendre là, cet extrait sonore, et il nous projette. Aujourd'hui, il nous projette absolument aujourd'hui.
Alors aujourd'hui, nous sommes le lendemain du 9 mai. Mm-hmm. Que peut-on en dire aujourd'hui ?
Que peut-on en dire ? Ce que j'aimerais, ce que ça m'inspire, c'est la première chose, c'est que derrière, si je peux dire derrière, ou filant son fil à travers ces quatre personnages du passé, on a d'abord, c'est très important, il y a un cinquième héros, c'est la société civile aujourd'hui. C'est pour moi très très important, et c'est cette Russie à aimer qui m'importe vraiment beaucoup. Ce qu'on peut dire, c'est que les décembristes en 1825 ont échoué.
Alors il faut que vous rappeliez qui sont les décembristes. Oh, c'est un groupe de jeunes étudiants qui veulent porter atteinte à l'absolutisme russe.
Voilà, c'est un groupe de jeunes gens, souvent issus de l'aristocratie, qui ont suivi la retraite panique de Napoléon et qui ont poursuivi les armées françaises et qui sont rentrés victorieux à Paris, qui sont restés, je crois, 4 ans à Paris, certains à Londres. Ils ont appris le parlementarisme, ils ont vu les gazettes françaises, ils ont vu discuter, s'insulter des gens sur des sujets politiques. Ils ont appris ce que c'était qu'une certaine société ouverte. Et quand ils se sont rentrés, ils se sont dit, ça peut pas durer comme ça. Les brimades dans l'armée étaient inouïes, le servage allait bon train, ils sont rentrés et ils ont vu que non, c'était resté tel quel. Et ces idéalistes ont commencé à se liguer dans des sociétés secrètes, pas forcément avec le but de mettre à mort le tsar et leur famille, pas du tout. Certains oui, d'autres absolument pas, mais une constitution. Et à un moment donné, lors de la mort du tsar qui a précédé, maintenant il faut que je me, qui était Alexandre Ier, je crois, Nicolas allait monter sur le trône, et là, tous ces jeunes officiers se sont ligués pour essayer de renverser le tsar. Cette tentative du 14 décembre 1825 a échoué et effectivement la société russe a été mise sous une chape avec toutes les interdictions possibles, irrespirables. Donc, si vous voulez, la dissidence, là, elle a échoué. Mais des fruits, à travers Alexander Herzen, à travers Bakounine, à travers Lavrov, à travers toutes sortes de penseurs qui ont été, d'ailleurs, à travers, je voudrais surtout pas oublier mon chéri Tchernychevski, tous ces gens ont été châtiés plus ou moins longtemps, mais ces graines de la dissidence qui, en fait, origine de la période d'Elisabeth II, de Catherine II, pardon, avec les récits de Radichev. C'est assez intéressant, ce voyage de Radichev de Moscou à Saint-Pétersbourg. C'est un monsieur qui se promène en calèche, qui change de calèche pour des relais, qui rencontre des gens. Et c'est charmant, c'est très très bien écrit, c'est joliment écrit. Seulement, il y a des gens qui lui racontent des choses. Et en fait, ce que les gens lui racontent, ce sont des vérités sur l'absolutisme qui sont glaçantes. Ce livre a passé la la censure, parce que le style semblait badin et élégant. Et quand Catherine II s'est rendue compte de ce que c'était, la pure horreur, on a évacué cet homme en Sibérie, vite fait, pendant 10 ans, je crois. Et ça, c'est peut-être le premier dissident comme ça, mais qui aura une très grande importance aussi sur les décembristes. Et puis, donc, échec des décembristes, 5 décembristes pendus, 123, je crois, envoyés en Sibérie, déchus de leur titre, de leurs biens. Et puis, on suit cette ligne au fil du 19e siècle. Elle va se réveiller avec plusieurs mouvements, dont un mouvement qui était vraiment le cercle Tchernychevski, qui était assez innocent, le Dostoïevski, qui fait partie de ces gens qui discutent, pas qui conspirent, qui discutent, se fait condamner à mort. Au dernier moment, le tsar fait savoir que c'est dans sa majesté sublime et sa magnanimité, on l'envoie effectivement. Et tout ça va cumuler avec une répression toujours plus grande. Et donc, on arrive à des périodes du mouvement Narodnaya Volya, la volonté du peuple, avec effectivement, cette fois-ci, des au fur et à mesure, vous comprenez, si une personne, un populiste, donne un tract à quelqu'un et qui ramasse 10 ans en Sibérie, je veux dire, la disproportion est folle. Ça faisait peut-être rire les gens du goulag, parce qu'on voyait qu'il n'y avait que quelques individus. Mais sur le plan de l'intérieur, il faut savoir ce que c'est que de se faire balancer 10 ans en Sibérie extrême dans des conditions épouvantables. Voilà. Donc, j'essaye de répondre à votre question de façon brouillonne qui est la mienne, mais ensuite la mort de Staline, cette dissidence à nouveau qui opère, on essaye de la stopper avec Marchenko, et puis on dit qu'il n'y a plus de prisonniers, etc. Et puis, voilà, que c'est comme ça que j'ai essayé de repérer le nombre de morts politiques qui ont été exécutés par ordre du plus haut plan. On se souvient, tout le monde se souvient naturellement de Gorbaniev, de Politkovskaya, de Boris Nemtsov qui se fait tuer au moment où justement, oh malheur, il y avait justement une camionnette de balayage qui passait devant la caméra. Qu'est-ce que c'est bête, comme ça on n'en peut pas savoir qui c'est. Et vous voyez, donc, et maintenant avec Navalny, etc., on peut pas dire que c'est fini. On peut pas dire que même avec tout le délire de la violence qui est celui de orchestré par Vladimir Poutine, ses opposants se sont tus. Ils ne se taisent pas. Ils trouvent des formes extraordinairement variées. Moi, j'aime beaucoup cet exemple. Par exemple, une fois, on sort avec des icônes. On va manifester contre la guerre avec des icônes. Comme ça, si la police intervient, c'est un crime lèse religion. Donc il y a toute forme qui s'applique actuellement pour dire non, la résistance n'a pas été anéantie.
Dans votre livre, Gilles Silberstein, vous faites l'éloge de cette société civile qui, en ce moment même, malgré la propagande que subit le peuple russe, malgré l'absence d'informations qu'il a, malgré les mots utilisés, continue, pour certains, à faire acte de résistance. Simplement, nous ne le savons pas. Comment pouvez-vous avoir accès, justement, à toutes ces personnes qui, au risque de leur propre vie et de leur propre emprisonnement, continuent à agir avec l'idée qu'ils sont des hommes et qu'ils portent la dignité des droits de l'homme?
Bon, il y a, je voudrais parler par exemple du travail que fait Memorial France, qui est une antenne très importante. Il y a d'autre part, les risques ne sont pas à une astuce près pour faire passer des messages qui ne passent plus forcément par les canaux officiels. On sait les choses simplement, et je pense qu'elles viendront encore plus. Simplement au départ, vous avez enregistré avec certainement consternation comment tous les Russes sont des sagouins, des salopards. Plus question de Pouchkine, plus question de Dostoïevski. Cette espèce de montée d'intolérance, elle va retomber parce qu'on va se rendre compte que le travail continue de se faire comme il s'est toujours fait, même dans les pires moments.
N'empêche qu'en ce moment, vous ne pouvez pas y aller, vous, en Russie, et vous ne pouvez pas continuer votre enquête au pays des dissidents qui font acte de résistance. Et vous faites remarquer à l'intérieur aussi de cet ouvrage, Gilles Silberstein, que ce n'est pas un hasard si les podromes de la guerre en Ukraine, finalement, ont été la fermeture de Mémorial Russie.
Ah oui, ça c'est le dernier.
Car c'est un effacement de l'histoire que veut le gouvernement russe actuellement.
Alors, c'est l'effacement de l'histoire et c'est l'effacement du fait que Mémorial qui a été créé pour honorer la mémoire de tous ceux qui sont tombés sous le stalinisme, c'est intéressé à la Crimée, c'est intéressé à la politique aussi actuelle. C'est peut-être ce qu'on lui a le moins pardonné aussi. Bon, non seulement c'est sûr du point de vue de Monsieur Poutine, la Russie a été grande sous les tsars, la Russie a été grande sous Staline, et la Russie est grande sous lui, et la Russie est grande éternelle, et ça suffit avec les pleureuses qui nous disent que gnan gnan, mais voilà.
Mais ce que vous montrez à l'intérieur de votre ouvrage, c'est que les racines de l'absolutisme sont tellement profondes qu'il va être très compliqué de les éradiquer. Nous qui avons tendance à rabattre ce qui se passe en Ukraine à cause de la volonté d'un seul et unique homme. Vous, grâce à votre voyage, grâce à vos réseaux, grâce à vos informations avec le monde dissident de Russie, vous montrez bien qu'il s'agit d'une culture très, très profonde. Quels sont les espoirs que cette minorité active, qui continue à s'exprimer à bas bruit, encore une fois, au mépris de sa propre vie, pourra un jour être entendue du peuple russe?
C'est la question piège, c'est la question mortelle. Mais il n'est pas question d'enterrer ces personnes, il n'est pas question de baisser les bras. Fût-ce au prix des échecs, ces voix dissidentes continuent de se faire entendre. Cette question m'a déjà été posée. Vous voyez bien que depuis les décembristes jusqu'à aujourd'hui, ça ne bouge pas. Ça n'est pas tout à fait vrai. Et de toute façon, à côté d'une Russie qui est anesthésiée par une sorte de télévision unique, par des programmes uniques, par des fermetures de journaux, par des fermetures de radio, par des fermetures de télévision, des canaux quand même continuent de se poser. Donc il serait indécent de dire oh, je suis optimiste, parce que rien ne me prouve que je pourrais avoir le moindre ferment d'un optimisme, mais qu'on n'essaye pas de me dire que tout ça est pour rien et tout ça ne sert à rien. C'est cette Russie-là qu'il faut aimer. Elle est là, il faut la soutenir.
Votre Russie, telle que vous nous le décrivez dans les pages admirables de ce livre, Gilles Silberstein, c'est aussi une Russie qui a beaucoup souffert dans son passé, qui n'a fait que souffrir, qu'endurer les privations, les guerres, les famines, et qui a une fréquentation intense avec la mort. Et de cette mort, de cette habitude de vivre avec la mort et avec les morts, vous nous parlez beaucoup. Est-ce que vous pensez que cette fréquentation de la mort, cette forme d'apprivoisement de la mort qui fait partie de la culture la plus populaire et qui est transmise, y compris aux jeunes générations, va peut-être un jour changer ?
Alors, encore une question à laquelle je ne vais pas pouvoir répondre, zut. Par contre, je substituerai peut-être la mort avec la passion de la mémoire en Russie, parce qu'elle est d'autant plus, elle est d'autant plus muselée qu'elle survit. Je trouve ça, c'est une caractéristique inouïe du peuple russe. Je veux dire, prenons un exemple. Allez visiter un musée, vous intéressez par exemple à Lermontov, vous allez à Pétersbourg, il y a une exposition, vous savez qu'il y a des objets qui appartenaient à Lermontov. Vous voyez partout. Vous voyez sur une chaise, vous avez une petite gardienne vraiment très âgée comme ça, qui dodeline un tout petit peu. Et je pense que si elle reçoit 5 questions par jour, c'est où sont les toilettes. Cette personne, si vous lui demandez quelque chose sur Lermontov, probablement qu'elle sera 2 heures à vous expliquer avec ferveur, avec ardeur. C'est partout. Je me souviens aussi à Voronezh, à propos de Mandelstam, un mot de passe, je parle de ce musée était fermé. La personne sait que je dis, oh, mais quelle catastrophe, je viens de Suisse. Vous aviez une exposition Mandelstam. Oh, mais la salle est encore ouverte. Je vais vous la montrer. Elle n'est pas démontée. Et je lui parle de mon projet sur Lermontov. Elle me ramène à une collègue qui était en train de manger un sandwich à l'œuf entre je sais pas quelle heure et quelle heure. Elle laisse son sandwich. Elle était fascinée. Elle nous, pendant 2-3 heures, elle nous a dit exactement où étaient les maisons, où avait vécu Mandelstam, la seule. On est allé d'ailleurs, la seule qui a encore vécu quand Voronezh a été au 90% détruite. Il y a cette passion. Je pense que cette passion est inextinguible. Je l'ai rencontrée partout. Est-ce que ça correspond? Je vous pose la question. Est-ce que ça correspond à la mort? Est-ce qu'il y a un rapport entre la mort et la mémoire? Mais il y a quelque chose qui est totalement unique et qui est jouvence et qui est une arme de résistance inouïe.
Merci infiniment, Gilles Silberstein. Votre ouvrage nous permet de comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Il s'intitule « Voyage au pluriel en Russie absolutiste, vie et mort de 4 opposants » et il vient de paraître aux éditions Noir et Blanc. Merci infiniment.
Tu dors.
c'est avec l'ONI que nous allons nous quitter ce soir. Merci à Guillaume Roux qui est à la régie technique ce soir. Merci à Céline Villegas, Élodie Royer, Marie Clément. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Et merci à Lilian Allôme qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission. Après le prochain journal d'information, vous avez bien sûr rendez-vous avec l'ami Mishka.